Bye.
Boulevard 102. Collé sur ce qui se passe ici et ailleurs.
Having met with the owners of Canada over the course of the campaign, it's not for sale, won't be for sale, ever.
Les enjeux qui te concernent.
Je ne sais pas comment le dire, là. Je vais être là en octobre 2026. Je veux un troisième mandat.
Le plus gagnant de la
The Stars in Dallas and the Oilers are headed for a rematch with the Florida Panthers in the Stanley Cup Final.
La nouveauté de Green Day. Le fou rire qui fait ta journée.
Pas le choix de mettre ma graine de sel là-dessous, là.
Hein?
Ça,
quoi?
Une graine?
Ben, ça se dit pas du tout.
C'est un grain de sel.
Boulevard 102. Du monde de Québec, par du monde de Québec. Une propriété Leclerc Communication.
Salut, bonsoir Québec, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 en espérant que tu aies passé une belle journée. Ça a été ensoleillé, quelques petits passages nuageux, mais rien pour écrire à sa mère. On a atteint quoi avec le facteur humidex, un genre de 33 comme température ressentie. Il y avait du soleil aujourd'hui, ça faisait du bien. Profitez-en pour ce qui reste pour ce soir. Ce soir, ce sera un ciel dégagé, un minimum de 18 degrés. Pour ce qui est de demain, jeudi, ben là, on parle de nuages en matinée et en mi-journée, même des risques d'orage en l'après-midi. Un 40 % de probabilité d'orage demain matin et un 40 % de probabilité de pluie demain soir. Minimum de 11 degrés. Pour ce qui est de vendredi, ce sera des nuages avec un maximum de 25. Et pour ce qui est du week-end, ça a changé le topo un peu. Mais pour le mieux, alternance de soleil-nuage pour samedi et alternance de soleil-nuage pour dimanche. Maximum autour de 24 degrés pour samedi et dimanche. Donc, c'est la bonne nouvelle. Le week-end sera ensoleillé. Mon invité de ce soir, c'est l'humoriste Guillaume Pinault, un gars qui roule sa bosse depuis 2011, mais je vous dirais que dans les dernières années, ben là, l'ascension de sa carrière a connu son apogée et il est en plein dedans. Donc, c'est un gars qui gagne à être connu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui le connaissent, ben vous l'appréciez déjà, puis vous savez que ça va bien ses spectacles. Mais on va en apprendre plus sur lui ce soir, les amis, comme à mon habitude dans Marceau Soir. Donc, place à Guillaume Pinault à l'instant.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Quel plaisir de passer la soirée en compagnie de Guillaume Pinault. Salut Guillaume!
Salut, comment ça va?
Ça va très bien. T'es donc bien gentil de participer dans un podcast de 60 minutes. Les humoristes, êtes-vous toujours occupés?
Ben là, je suis au chalet en ce moment-là, fait que j'avais du temps en masse pour ça. J'aime ça les podcasts, ça me fait plaisir.
Ouais. T'es-tu en vacances présentement?
Ben, j'avais comme un 4 jours off, là. Je suis venu ici là, écrire dans mon bon vieux livre sur mon laptop, profiter un peu de la nature au chalet, préparer une couple d'affaires aussi pour le début de la saison estivale, on dirait. Là.
Ouais, t'as quelque chose de prévu de ce que j'ai vu tout à l'heure. J'ai été surpris de voir, parce que moi, je suis quelqu'un qui consomme de l'humour, mais je suis pas quelqu'un qui consomme énormément de produits de la relève. T'sais, moi, c'est quand quelqu'un va me parler d'un humoriste, je vais commencer à m'intéresser à lui, puis je vais aller voir ses spectacles. J'ai été surpris de voir que t'es un vieux de la vieille comme humoriste. Ça fait quoi? Ça fait plus de 15 ans que tu grindes dans l'univers de l'humour, puis de ça va super bien tes affaires, mais j'ai été fessé de voir que tu as commencé aux alentours de quoi, 2010?
2011, oui. 2011, j'ai commencé à un concours qui s'appelait En route vers mon premier gala.
Ouais.
Puis de là, ça a parti. Là, en 2013, j'ai refait le concours. En 2014, puis là, je suis tombé ami avec Phil Roy. On s'est rencontrés, moi, puis Phil Roy, sur la. Le concours d'humour en Abitibi à Val-d'Or.
Ouais.
Le FAT, le FAT. Ah, le FH, un festival d'humour d'Abitibi-Témiscamingue, anyway, FAT. Puis de là, on est tombé amis. Phil est parti sa tournée en rodage en 2015. Il m'a amené avec lui. Je faisais des premières parties. Fait que ouais, ça fait un petit bout, mais tu sais, mon show à moi, mon premier détour, qui d'ailleurs, mon poster est là en arrière, là, c'est pas parce qu'au chalet, mais c'est la seule place que je. Mon bureau est là, fait que c'est bien rare que d'habitude j'ai ma propre image dans mon image.
Ouais.
Mais ils vont des champs sinon à côté, tu vois.
Oui. Non, c'est bien, c'est vraiment bien décoré. Là, c'est vraiment bien décoré. Il y en a qui ont leur chien, il y en a qui ont leur chat. Ouais. Il y en a qui ont leurs enfants, leurs blondes. Toi, c'est toi. C'est...
Ben, en fait, c'est le poster de la fin de la tournée de détour. Fait que c'est toute l'équipe qui a signé autour et qui m'ont donné avec. Avec ma plaque, fait que tu sais, je l'ai affiché là, mais sinon j'aurais pas un poster de moi-même que je me serais. Tu le verras pas vite, là, c'est parce qu'il est signé par mon équipe.
Ouais.
Mais tu sais, pour dire que c'est ça, fait que j'ai fait J'ai commencé, mettons, les rodages en 2019, le show sorti en 2022, tu sais, à cause de la pandémie, tout ça.
Ouais.
C'est un peu ça. C'est un peu un départ qui a été long. Mais là, tu sais, je suis à la deuxième tournée, ça va super bien. Puis,
Moi, ce que j'aime, c'est que tu n'as jamais abandonné. Là, tu sais, c'est une super de belle qualité, la persévérance. Je parlais avec la voix, celui qui fait le grand tour de roue. Là. Je perds son nom. Pierre Lavoie.
Ah, OK. Puis, okay, la voix, je pensais la voix, la musique. J'étais comme là, si ça en va avec des chanteurs, je vais être perdu.
Là. Non, je parlais avec Pierre Lavoie. Puis, tu sais, c'est tout un athlète, Pierre Lavoie, c'est tout un monsieur. Puis, il disait que s'il y avait une entreprise, lui, puis il devait choisir entre une candidature, soit un premier de classe ou soit un gars qui a toujours persévéré à chaque fois qu'il y avait des difficultés.
J'ai vu la cote de ça, oui.
Il prendrait sans hésiter la personne qui a toujours persévéré parce que c'est ce type d'employé-là que tu veux. Ben, toi, t'es cet humoriste-là qui, aujourd'hui, ça porte fruit. T'as jamais abandonné, puis ça fonctionne super bien, tes affaires. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, Guillaume Pinault, en humour?
Ah, moi, c'est en... Ouf, my God, c'était secondaire. J'avais animé le spectacle de fin d'année.
Ouais.
Puis j'ai comme eu une piqûre de l'humour, puis j'étais, hey, je pense j'aimerais ça. Je n'avais parlé avec l'orienteur scolaire.
Ouais.
Il m'avait dit que c'était pas une bonne... Il m'avait dit que c'était pas réaliste.
OK.
Fait que là, j'ai fait des demandes en police, j'ai été refusé. Fait que finalement, je suis rentré au cégep. J'ai fait sciences santé. Puis là, j'ai fait hey, Colin, je sais pas trop. Fait que je suis parti en ergothérapie parce que j'avais été refusé en physiothérapie. Puis là, j'ai fait mon cours d'ergo complet. Là, j'ai fait hey, c'est de l'humour que je voulais faire. Fait que j'ai refait mes demandes à l'école de l'humour que j'avais jamais fait, en fait. Là, ils m'ont refusé en 2009. J'ai fait ah, je vais faire mon cours d'ostéopathie d'abord. J'ai fait mon cours d'ostéo. Puis quand j'ai gradué d'ostéo, j'étais déjà en première partie de Phil Roy. J'avais comme commencé dans un autre.
Ouais.
L'humour d'une autre façon. Puis là, j'ai fait, hey, je pense que je vais m'essayer en humour. Je m'étais pris l'année 2015 off. J'ai dit, je vais pas travailler. Je vais regarder si je peux faire juste humour. Puis de là, je suis jamais retourné. Fait que, ouais.
OK, mais quand même, tu avais plusieurs portes de sortie qui auraient pu t'amener vers autre chose que l'humour. Ben oui, mais c'est ça. En même temps, ça devait être plus inquiétant pour tes parents. Là, nous autres, on te connaissait pas encore, fait qu'on savait pas tant. Mais pour tes parents, ils devaient juste halluciner en disant, à un moment donné, bon, notre enfant est intelligent, visiblement, il va aux études, mais il va-tu trouver sa niche à un moment donné?
Ben, il était surtout tanné de payer mes études, je pense, mes parents. Là, ils ont payé mon ergo. Ils m'ont aidé pour une partie de mon ostéo.
Ouais.
Puis à un moment donné, c'est ça que mon père a fait. Il avait dit, « Hey, si à un moment donné, tu arrives au bout de la cagnotte et tu as besoin, tu nous le diras. » C'est comme une façon de faire, « Arrange-toi au maximum. » Tu sais, je ne vais plus décaisser des REER. Compte tenu que je t'ai payé 3 ans d'études à l'université,
puis
tu as décidé de refaire un autre programme, c'est un peu sur toi. Puis là, en plus de ça, en bout de ligne, c'est pour me dire, « Je vais faire de l'humour. Hey, trouve de l'argent, mon gars.
» Okay, ouais.
J'avais payé quand même une bonne partie de mon ostéo.
Puis en même temps, ça doit être weird avec tes confrères humoristes quand tu compares ton parcours à celui des autres. Il y en a qui, dès la sortie du secondaire, ont commencé à faire ça. Puis il y a des jeunes qui commencent à rentrer dans le milieu de l'humour qui n'ont jamais lavé de la vaisselle dans un restaurant. Puis c'est leur premier job, puis ils commencent sur les réseaux sociaux. Toi, tu arrives avec avec tes études. Tu dois être une drôle de bébête au travers de tous ces gens-là, des fois. Là.
Ben, tu sais, c'est un partage. Il y en a que je découvre avec le temps. Tu sais, Pierre Hébert, qui est rendu un de mes très bons amis proches.
Ouais.
Tu sais, Pierre a quand même fait un bac en psycho. Tu sais,
ouais.
Fait que je fais, François Bellefeuille, qui était vétérinaire. Tu sais, je pense juste que des fois, c'est on l'a dedans, on a envie de faire ça, mais ça nous prenait vraiment comme genre quelque chose sur le back burner en faisant d'un coup que ça marcherait pas, je peux aller faire ça. Mais c'est sûr que des fois aussi, je me compare avec des gens. Qui sortent justement du secondaire, qui vont directement à l'école de l'humour.
Ouais.
Aussi, là, au début, j'étais, hey, si j'avais commencé à 18 au lieu de commencer à 28, je serais-tu 10 ans avancé sur ce que je suis? Mais je pense pas.
Non.
Je pense pas. Tu sais, je me rappelle d'avoir déjà discuté avec Mehdi Boussaïdan. On avait fait un spectacle, puis t'es comme, mais t'as tellement plus de vécu. J'ai ah oui, mais toi, t'as tellement une connaissance de l'humour. Tu sais, chacun, on a peut-être quelque chose que l'autre a pas, mais en bout de ligne, ça finit que, tu sais, il y a des expériences de vie qui va pogner, lui, dans sa vie. Puis moi, il y a des affaires que j'avais déjà, mais il faut que j'apprenne à travailler plus l'humour.
Ben oui.
Puis en bout de ligne, je ne changerais pas le parcours, par exemple. Aujourd'hui, je suis content parce que dans mon premier spectacle, il y avait une grosse portion sur mes études. Dans le deuxième spectacle, il y a une grosse portion sur comme ma famille, mes expériences de vie. Puis je pense que ça m'a aidé à être l'humoriste que je suis aujourd'hui.
Ben, j'en doute pas. Puis tu sais, aujourd'hui, bon, les réseaux sociaux sont là. Il y en a qui commencent sur TikTok, mais ils attirent les crowds de gens de leur âge aussi. T'sais. Si toi, tu veux faire des salles quand tu as 18 ans, ça va être extrêmement compliqué parce que les jeunes de 18 ans qui consomment de l'humour vont peut-être plus le faire sur les réseaux sociaux que d'aller directement dans les salles. Fait que toi, à 18 ans, ben, tu aurais une crowd de gens de 18 ans, mais tu n'aurais pas été capable de chercher la crowd aussi large que toi, tu es capable d'aller chercher présentement, c'est-à-dire homme comme femme de 25 à 55 ans, c'est sûr et certain qu'ils vont triper puis ils vont trouver leur compte dans ton spectacle. Mais quand tu commences à 18 ans, partir des, tu sais, faire des jokes sur ta vie, les premières aventures avec ta blonde, ça intéresse-tu tant que ça?
Trop vieux, j'ai 20, c'est comme moi, c'est ça, là, donne-moi un break.
Ça intéresse-tu tant que ça, le bonhomme de 40 ans? Pas sûr.
En plus, tu sais, moi, quand j'avais 18 ans, là, les médias sociaux, là, ça n'existait pas. Là.
Ben non.
Il n'y en avait pas. Là, moi, Facebook est arrivé. Puis moi, Facebook est arrivé quand j'étais à l'université parce que dans les débuts de Facebook, il y avait seulement 6 universités. C'était une plateforme universitaire, Facebook, à la base.
Exact.
Il y avait Harvard qui l'avait. Puis McGill était dans les 6. Fait que nous, on a eu Facebook en comme 2006, mais Facebook, ça a comme popé en 2009, universel. Là. Ou peut-être avant, mais bref. Moi, j'avais le Facebook universitaire à la base. Là, fait que c'était mes élèves de ma classe, là, t'sais, puis on se partageait des photos de nos parties, mais c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Là, t'sais. J'aurais pas su maîtriser ça à 18 ans.
Tu te rends-tu compte à quel point tu sonnerais comme un vieux bonhomme si tu parlais à mes enfants? Parce que là, tu leur dis, ben non, mais moi, là, le début de Facebook, là, c'était dans les universités.
Je sais, mais j'étais avec... fois, je fais, hey, le temps avance vite en maudit.
Vraiment, j'étais avec mes étudiants il y a de ça quelques années, puis je jasais d'un truc qui s'est passé à Québec, ben Denis Lortie, l'Assemblée nationale. T'sais. Puis j'étais au Collège Radio-Télévision de Québec, puis je leur jasais des trucs qui arrivaient dans les années 70, les années 80, j'ai même descendu dans les années 60. Tu sais, c'est important quand tu fais ce métier-là d'être capable de parler de choses qui se sont passées, même si tu n'étais pas là. Tu sais. C'est une portion de notre histoire, des connaissances générales. Puis il y a un élève qui a eu un mauvais réflexe en disant « Ouais, mais quand les gens sont arrivés sur place, là, ça devait être... ils devaient prendre des photos, ils devaient envoyer de l'information aux médias à ce moment-là. » Là, je dis « Quoi? » Ils prenaient prenaient des photos avec quoi, les gens, en 1980? C'est, mettons, un Polaroid. Mais il faisait comment pour rejoindre le journaliste qui était à son bureau au Journal de Montréal, Journal de Québec?
Premièrement, juste te rendre ces lieux de la nouvelle, c'est déjà compliqué. Là,
oui.
Si tu n'allais pas de carte, juste avec une carte. Ou que... Moi, là, des fois, j'imagine, je ne peux pas me rappeler le moment que j'avais pas de GPS. T'sais, moi, j'ai eu les premiers GPS collés dans la fenêtre, le TomTom, là, avec ça sur mon téléphone. Là. J'ai l'impression que je parle de ça comme si ça faisait 1000 ans que ça existait, mais je vais pas si longtemps. Là. Je me suis déjà perdu, moi, en revenant de Drummondville. Je suis pas parti dans le bon sens vers Saint-Hyacinthe, puis à un moment donné, arrivé vers des pancartes qui me disaient Trois-Rivières. Je dis, là, ça va pas, mon affaire. Là. Je suis pas du bon bord.
T'es pas du bon bord. Ouais.
J'ai appelé mon père. Je suis dans une cabine téléphonique en faisant « Père, je suis rendu sur un pont qui s'appelle Saint-Maurice. J'ai aucune idée. C'est comment je vais revenir? » Puis là, tu vas arrêter dans une station-service. Là. Tu vas, à la limite, va t'acheter une carte. Là. Puis demande au gars, il va t'envoyer vers quelque chose. Puis, hey, j'étais revenu. Ça m'avait pris 5 heures à revenir de Drummond à Saint-Hyacinthe. Puis c'est à une demi-heure de char. Fait que tu sais, tu comprends que j'étais un petit gars mêlé.
Non, c'est ça. Mais de voir les étudiants, tu sais, moi, j'ai eu un conflit de génération. Là. Quand j'ai vu qu'eux autres, ils n'avaient jamais vécu l'ère de avant Internet. Mm-hmm. Je me suis dit, là, je suis rendu vraiment une vieille patente. Là,
ouais.
OK. Hey, tu me sembles être un gars assez timide de nature. Est-ce que je me trompe?
Je suis comme plus réservé, on dirait. Okay. Quand je finis par connaître le monde, là, ou quand c'est des trucs télé, on est un peu plus extraverti, mais je suis plus introverti.
Puis qu'est-ce qui a fait qu'au secondaire, tu as décidé de commencer à embarquer là-dedans puis d'être un peu plus front que toujours le gars qui est comme en milieu de classe ou au début de la classe devant le professeur? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit « Hey, ça me tente d'animer, là? »
Ben, tu sais, j'ai toujours été comme un peu comique dans mes cours. Quelle fois que je tombais à l'aise, puis c'est ce qu'un de mes profs du secondaire m'a dit, « T'étais comme... » correct, tu étais dérangeant, comique, mais autant pour le prof que les élèves, tu sais. J'étais pas un que les profs devaient « Hey, toi, tu vas te placer. » Je pense que j'étais comique, mais dans le respect. Puis à un moment donné, c'était dans mon groupe d'amis, puis ma blonde de l'époque, quand j'étais au secondaire, ils ont fait « on animerait le show de fin d'année. » Tu sais, c'était comme des parodies, des affaires. J'ai fait « Ah, ben j'aimerais ça le faire. » Fait que c'est dans l'effet de gang, mais en le faisant, j'ai aimé ça. Puis les bouts que j'animais tout seul, puis les bouts que c'était pas du stand-up, mais tu sais, on faisait un personnage, puis on imitait quelqu'un, puis il y avait des jokes à écrire, j'avais vraiment aimé ça. Puis de là, j'ai fait, ah, s'il y a quelque chose que j'aime là-dedans. J'aimais l'humour, j'aimais consommer Martin Matt, Louis-José, je regardais leur DVD, Patrick Huard, Face à Face, j'ai tellement écouté ce DVD-là qu'à un moment donné, j'ai fait, ah, j'aime vraiment ça. Puis là, c'est à l'université que ça a kické quand il y avait le talent show à McGill, mais tu sais, moi, j'étais en ergo, en physio, c'est le bac le plus francophone de McGill.
Ouais.
Fait qu'on ne pouvait pas en français. J'avais fait un numéro sur ma première année à McGill, puis une madame dans la salle m'avait dit, c'était vraiment quelque chose. Il m'avait donné une carte de juste pour rire. Junior Girardot. Je l'avais appelé. Puis il m'avait dit, oh, on fait un concours dans un bar. Là, j'étais arrivé là. Mais t'es planté, là. Ma première année à McGill, c'était bon dans une salle où c'est du monde de McGill. Mais
ouais,
dans un bar à Montréal, le monde s'entorche ta première année à McGill. Fait que de là, il m'avait dit, hey, va faire les cours du soir. Puis, tu sais, de fil en aiguille, j'ai fait une couple d'affaires qui m'ont amené à faire de l'humour.
Mais t'as fait l'école de l'humour aussi? T'es passé par là, par le processus ou pas?
Non, j'ai fait les auditions en 2009 de l'école et ils m'ont refusé. Puis quand j'ai été refusé, j'ai fait en 2009 les cours du soir. Ça, dans le fond, si tu donnais 350$, ils te donnaient un cours. Là. Fait que moi, je m'étais inscrit dans trois cours. J'avais pris le cours d'écriture numéro 1, le cours d'écriture numéro 2, puis le cours de présentation de numéro. Fait que je l'ai fait à l'envers. Fait que j'ai fait présentation numéro en premier. Ce qui était niaiseux, j'aurais dû apprendre à écrire pour présenter ce numéro-là.
Ouais.
Mais fait que j'ai fait un numéro en premier pour ça. J'ai fait mes cours d'écriture.
OK, mais tout est en place pour ce que toi, ça marche jamais, là.
Ah, moi, là. Puis moi, le pire, c'est quand j'ai fait En route en 2011, j'avais fait les auditions de 2009, de 2010, ils m'avaient pas pris.
Ouais.
En 2011, Snick, qui est un script éditeur bien connu, Nicolas Boucher, quand ils m'ont pris, c'est comme si je sortais de nulle part. Fait que je me suis rendu en demi-finale. Puis lui, il était là dans la salle ce soir-là. Puis je suis allé le voir. Puis j'ai fait, hey, merci, Snick, de m'avoir pris dans cette édition-là. Puis je pense pas qu'il voulait le dire de façon méchante, mais il m'a vraiment dit, hey, Guillaume, on t'a flippé sur un 25 cents. Parce que il y avait un juge qui disait oui, l'autre, il disait non.
Wow.
Puis moi, dans le milieu, j'étais comme, je sais pas. Il était drôle à l'audition, mais est-ce qu'il est aussi drôle pour faire de la télé? Puis ils ont flippé. Puis je suis passé dans le tordeur, puis je suis content parce que ça m'a amené à ça aujourd'hui.
Ça te fait de toi quelqu'un de plus résilient sur les commentaires qu'on peut te faire par rapport au début de ta carrière? Puis ça t'a-tu aidé, ce genre de commentaires-là? Parce que, tu sais, moi, c'est drôle parce que je jasais avec un gars hier, Doc Boucher, qui a joué avec... qui a entraîné des gars de la Ligue nationale de hockey. De mémoire, c'était du temps d'Éric Lindros, fait que c'était avec les Flyers de Philadelphie. Puis on était venu à un moment où, quand il y a eu la grève dans la Ligue nationale de hockey, ben, les gars se cherchaient des glaces pour aller jouer, puis ils cherchaient des joueurs. Puis fouille-moi comment j'ai réussi à arriver là avec eux autres. C'est par l'entremise d'un de mes chums qui a dit « Yann, on a besoin de défenseurs, tu peux-tu venir? » Moi, j'arrive là, je vois des gars de la Ligue nationale de hockey, des Québécois qui sont là. J'embarque sur la glace avec eux autres. Tu parlais des anciens joueurs des Nordiques tantôt. Il y a des anciens joueurs des Nordiques. Marc Fortier est là, qui joue avec moi à défense. T'sais. Puis il avait oublié son casque. Fait que des fois, il mettait mon casque. Des fois, je mettais le sien. Puis curieusement, je réussissais à enlever la rondelle au gars de la Ligue nationale de hockey. Fait que pour mon ego, écoute, c'était formidable. Là. Mais après ça, j'arrive au banc puis je dis à Marc Fortier. Il dit, Marc... pourquoi les gars, je suis capable de leur enlever la rondelle? Ça, c'est pas normal, ça. Ces gars-là, ils jouent au hockey toute leur vie, ils font ça toute leur vie, ils s'entraînent tout le temps. Puis là, un peu comme toi, là, tu sais, hey, merci, Marc, c'est gentil, là, tu sais. Fais-moi un compliment, quelque chose. Il dit, c'est bien simple. Il dit, t'es tellement lent que t'es à une place où ils peuvent pas prévoir que tu vas être là parce que t'es lent. Fait qu'ils s'enfargent dans toi. C'est pour ça que tu réussis à leur enlever la rondelle.
Ouais. Hein? Ouais. Puis c'est pour vrai, moi, j'ai été invité au classique Kevin Raphaël.
Ouais.
Puis, moi, je suis un défenseur. Là. J'ai joué au hockey jusqu'à l'âge de 14 ans, mais je suis pas bon. Là, puis je croise pas en reculant. Fait que déjà, ça donnait une idée. Puis première game, je rentre sur la glace. Puis ils m'ont mis avec Pascal Dupuis. Puis. L'autre bord, c'est Anthony Duclair qui s'en vient.
Hey boy, OK.
Duclair, il a été un petit coup de patin, là. Mais quand il arrive devant moi, j'ai écouté l'Académie de hockey McDonald's. Là, fait qu'il était comme, tu gardes ton hockey proche, puis quand il avance, tu sais, fait que là, il y a comme une distance de hockey qu'il n'a pas prévue. Puis là, je tape la rondelle, puis j'avoue partir sur le bord de la bande. Hey, fier de moi, si j'ai fait mon premier chiffre, j'ai enlevé la puck à Duclair.
Ouais.
Mais lui, Il a passé à côté, d'aller repogner à Puck, il a fait un wrap-around, mais il a crissé dedans, j'ai fait. Ah, c'est ça, c'est qu'après ce jeu-là, la game n'est pas finie. Là.
Non.
Faut que je continue à patiner, moi, là. Mon jeu, c'est pas, le monde ne se sont pas arrêtés comme moi en faisant waouh, c'était donc bien beau. Là.
Ouais.
C'est juste, je l'ai fait déborder, puis il a repogné à Puck. Mais.
Fait que même ça. Si tu t'es fait dire qu'on t'avait flippé sur 25 cents, puis ça avait fonctionné, t'as profité de l'expérience, puis t'as con.
Ben t'as, oui, tu sais, j'ai fait, okay. Hey, je suis là, puis tu sais. Je me suis rendu en demi-finale. Fait qu'une fois, une fois qu'ils ont flippé le 25 cents après l'audition, je fais, j'ai pas volé ma place en demi-finale. J'ai impressionné le monde. Ils ont voté pour moi. Je me suis rendu. Fait que de là, c'est drôle parce que j'en parle encore aujourd'hui parce que c'était Simon Gouache qui était contre moi en quart de finale. Hey, on s'en est parlé dans une chambre d'hôtel à Québec à un dernier show. J'étais à la salle d'Albert Rousseau. Il était au petit Champlain en rodage. On s'est croisés à l'hôtel. On a jasé jusqu'à 4 heures du matin de cette en route-là en faisant. Il était rentré là tellement confiant. T'es comme, t'es sorti de nulle part. Moi, je pensais que je gagnais en route. Lui, c'est ça qu'il me disait. Il dit, toi, t'es arrivé, tu me sors. Il dit, ça m'a ramené comme sur le droit chemin. Regarde, Simon, aujourd'hui, t'as une carrière incroyable. Ouais. Puis moi, ça m'a juste donné l'espèce de petite confiance que j'avais besoin. Après ça, je suis arrivé dans le réseau des bars. Là, le monde était comme, vous l'avez vu en route. T'sais, ça me faisait juste me donner un petit crochet d'approbation pour pouvoir jouer. Puis, hey, regarde... Je me rappelle que même en jasant avec Sam Breton puis José Godet avait dit ça à Sam, puis Sam, elle avait dit, tu sais, il y a plein de chemins pour se rendre au sommet. Il y en a un qui va avoir le sentier en ligne droite, l'autre va passer dans un sous-bois, l'autre va nager un peu dans un lac. Fait que moi, j'ai eu des branches d'en face, mais je finis par continuer à monter.
Ouais, c'est ça. Puis j'ai l'impression que tu as tout le temps été comme dans une position, en humour du moins, inconfortable. Fait que tu as tout le temps grindé pour continuer. Tandis que quelqu'un qui était très confortable, comme Simon Gouache, qui arrive, lui, il regarde la trail est bien ouverte, il peut rouler à 300 km/h. Puis là, tout d'un coup, un gars qui avait jamais été confortable continue de travailler, puis pouf, le dépasse en finale. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle histoire. Puis en même temps, on a tendance à idéaliser, je pense que c'est humain de le faire, là, des gens qui ont une grosse réussite. Tu parlais de José Godet, à qui je parlais là, peut-être 2 mois, un gars hyper sympathique, puis qui est d'une honnêteté parfois qui peut être désarmante. Là. Il gagnait 30 000 piastres dans les premières années des Grandes Gueules.
30 000 piastres. Comment il gagnait dans les dernières années?
Comment?
Il te l'a-tu dit comment il gagnait dans les dernières années?
Ben non, il m'a dit qu'il n'avait plus vraiment besoin de travailler.
Ben non, c'est ça. Ouais, moi, je sais. J'ai une petite idée du contrat qu'il a eu quand il est retourné. Fait que je te dirais qu'il n'est pas à plaindre.
Ouais. Ben c'est quand il est retourné que là, ils ont demandé la totale. Là. Ouais. Mais quand il gagnait 30 000 piastres, ces gars-là, ils étaient idéalisés. Là, ils travaillaient du matin jusqu'au soir. Puis ils gagnaient juste ça. Puis ils n'ont jamais abandonné. Puis aujourd'hui, ben, quand ils sont revenus, en fait, je dis aujourd'hui, mais il y a quelques années, quand ils sont revenus à la radio, c'est là où ils ont commencé à cacher. T'sais. Mais il y a toujours un message là-dedans. T'sais. Continue de travailler, puis ça va.
José,
ça va,
c'est un exemple parfait. Là, il arrive, ça fait 30 ans qu'il fait ça. Il décide que lui, il veut se faire un show solo. Hey, c'est quelque chose de repartir tout seul. Là.
Ouais,
t'es pas en duo, t'es plus backé par la radio. Puis. Moi, je le trouve vraiment super. Je l'ai croisé dans des lancements de programmation. Puis je trouve ça fou, tu sais, de te voir ici. Puis il fait comme, non, j'ai besoin là, de redire au public que je roule. Fait qu'il va faire un 7 minutes dans un lancement de programmation à Drummondville. Mm-hmm. Puis après ça, quand il a commencé, il a fait des rodages. Il est allé dans une petite salle dans le réseau des salles du Québec. Je le trouve vraiment super. Moi, quand j'ai vu qu'il était à Lévis, au vieux bureau de poste, j'ai fait, hey, c'est 100 places, là. Toi, tu faisais le Saint-Denis plein, là, genre à 4 heures l'après-midi puis à 8 heures le soir, 2 soirs de suite avec les Grandes Gueules. Puis là, tu vas faire un 100 places à Lévis. Chapeau, je trouve ça bon qu'il a refait le vrai processus d'un rodage. Puis c'est sûr que son show est super bon. Je n'ai pas encore vu, mais c'est dans ceux que je vais aller voir.
Oui, puis en même temps, tu sais, il fait preuve d'humilité puis il recommence comme au départ il a commencé. Moi, je trouve ça formidable. Tu nous as nommé 3 humoristes québécois tantôt quand tu étais jeune, là, que tu regardais, que tu idéalisais comme humoriste. As-tu eu de l'influence américaine? As-tu eu de l'influence européenne?
Oui, c'est l'influence américaine est venue vraiment plus sur le tard, par exemple, parce que c'est vraiment avec Netflix, tout ça, que j'ai vu les premiers specials, puis c'est quand je me suis séparé en 2015 d'une relation de 12 ans de couple. J'étais chez mon coach de water polo de l'époque, puis il m'a laissé son appart. j'étais sur le divan, puis j'écoutais avec son PlayStation. Pas avec son, ouais, avec son PlayStation, on pouvait écouter Netflix, puis à cause que c'était un son PlayStation était rigué sur américain. Bref, j'avais Netflix américain. Fait que j'avais accès à des affaires que j'avais pas accès au Canada dans le temps. Puis c'est là que j'ai découvert Mike Birbiglia, qui est un humoriste que j'adore. Puis le show, ça s'appelle My Girlfriend's Boyfriend. Il explique qu'il sortait avec une fille qui a déjà un chum, mais qu'elle ne disait pas. Fait que c'est déjà ramassé dans un party de famille où il fait semblant d'être l'ami, mais il est quand même... Hey, c'est... Mais ce show-là, il est tellement bon. Puis ça a changé un peu ma vision de l'humour puis de comment écrire de l'humour. Puis ça peut être un peu plus... émotif puis vrai. C'est pas obligé d'être juste des gags puis des liners. Puis moi, avant de faire, tu sais, je faisais de l'anecdote, mais j'ai comme faire actuellement que ça soit toujours punché. J'aime ça faire rire les gens, mais on dirait que après avoir vu ce show-là puis les suivants de Mike Birbiglia, je fais on peut aussi faire réfléchir les gens. Puis c'est pas grave si pendant 26 secondes, il n'y a pas un rire, mais le monde comprenne quelque chose puis ça fait avancer le spectacle. Fait que, ouais, Mike Birbiglia, c'est une grosse influence. Sinon, ben, j'adore Bill Burr, mais c'est pas un humour que je maîtrise. Le stand-up comme ça, qui est un peu confrontant, mais j'aime bien gros lui.
Est-ce que c'est, est-ce que c'est complexe pour vous autres, pour les humoristes, de choisir un peu le type d'humour que vous désirez faire? Puis en même temps, est-ce que, parce que tu embarques dans un type d'humour, prenons exemple Mike Ward, là, qui au départ était trash jusqu'à temps que j'aille à Petite Chapelle voir Faf. Là. Faf, c'est vraiment Faf, c'est vraiment trash. Mais Mike Ward, tu sais, il a cette niche-là, mais il ne peut pas se sortir de cette niche-là. Fait que quand tu trouves un style d'humour qui fonctionne bien pour toi, c'est une grosse décision à prendre, là, à savoir où est-ce que tu t'en vas avec ça.
Je sais pas s'il peut pas se sortir de cette niche-là, mais dans le sens qu'il pourrait faire des numbers ou juste raconter une anecdote. Il a déjà conté une anecdote de Michel s'étouffe puis il est malade. Je veux dire, je raconte une anecdote de mon ami s'étouffe puis il vomit dans ses Crocs. C'est une anecdote. Elle est un peu trash parce que il a vomi, mais dans le sens que je pense qu'il y a un créneau à lui. L'affaire, c'est le style d'humour dans lequel je pense que tu peux pas sortir.
Ouais.
Moi, tu me dis, Guillaume, demain matin, tu fais de l'absurde, c'est sûr, je suis incapable de faire ça. Tu me dis, ah, ça va être de l'humour vraiment du stand-up à l'américaine, analyse, puis tu pars, ou de l'humour politique, un peu plus comme Louis T. Je peux pas. Mais de l'anecdotique, je vais en faire du plus trash, du plus sensé, du plus sensible. T'sais, ça fonctionne. Mais je pense pas jusqu'à de maîtriser les autres styles d'humour, moi, personnellement.
Est-ce que tu les as essayés?
J'ai déjà essayé de faire un peu plus en stand-up.
Ouais.
Il y a une situation, parce que surtout quand j'animais une soirée d'humour, vu que j'avais tout le temps du nouveau matériel à faire chaque semaine, là, des fois, je checkais une nouvelle, j'essayais d'écrire quelque chose par rapport à cette nouvelle-là. Mais j'aime mieux une anecdote qui s'est passée et qui part de moi puis quelque chose de vrai que je peux un peu agrémenter que d'écrire du stand-up.
Dans tes. En fait, sur ton YouTube, Guillaume Pinault, on voit à quel point tu es bon comédien aussi. As-tu l'intention dans quelques années d'être un acteur? C'est-tu quelque chose qui t'intéresse?
Ah, t'es fin, je sais pas qu'est-ce que tu as vu sur mon YouTube qui t'a donné l'impression que j'étais un bon acteur.
Ouais, vous étiez dans un restaurant puis vous fessiez l'un sur l'autre. Là.
Ah ouais, ok, c'est le mot cappuccino. Mais oui, j'aimerais ça jouer.
Ouais.
Mais j'aime. Je ne sais pas mon range d'acteur, tu sais, pour vrai. Je pense que je pourrais jouer quelque chose qui n'est pas loin de moi. J'avais auditionné pour quand ils ont fait Brooklyn 99, la version québécoise, qui était Squad 99. Ils m'avaient auditionné parce que je ressemblais à Andy Samberg. Puis finalement, c'est Mickaël Gouin qui l'a eu, qui est mon metteur en scène aujourd'hui. C'est quand même drôle. Mais tu sais, Mick, il y a vraiment une palette d'acteurs. Il peut aller jouer dans plusieurs émotions. Moi, je pense que j'étais assez limité à quelque chose qui n'est pas trop loin de moi. Mais j'aimerais ça. Du moins l'essayer puis être bien dirigé par un réal, peut-être, j'aimerais bien ça.
Mais es-tu quelqu'un qui prend des cours, qui te forme encore à ce jour?
Si je me forme on the side, si moi je fais
des cours d'acting, exemple, dans l'espoir d'un jour pouvoir faire ce métier-là aussi en dehors de tes spectacles, bien entendu.
Quand j'avais commencé dans le temps au D+ en direct, j'avais pris comme... quelques ateliers avec Daniel Fichaud, qui était comme jeu caméra, mais j'apprenais des trucs individuels. J'ai pas suivi un cours comme complet. Ça m'aidait. Puis j'avais appris aussi Joseph Saint-Gelais à ce moment-là avec qui je travaillais, qui m'aidait pour ma diction. Puis il m'avait dit une affaire aussi niaiseuse que je parlais à la caméra, puis je disais on s'en va voir l'extrait. Mais moi, je pointais le moniteur sur lequel l'extrait jouait en studio. Mais le monde à la télé, là, les autres, ils s'en vont dans tes... Fait que pointe la caméra quand tu dois voir l'extrait. C'est juste des petites affaires niaiseuses de même à faire que... Ah oui, je connaissais pas ça du tout.
Ouais.
Fait que, mais prendre des cours de jeu, j'aimerais ça. J'avais dit, moi, si jamais vous me prenez pour tel rôle ou si vous me prenez pour l'animation, tu avais aussi auditionné pour Survivor, je fais, avant que ça se passe, je vais aller voir quelqu'un pour travailler ma diction, ma compréhension du jeu caméra. Tu sais, je suis prêt à faire ça. Mais je ne l'ai pas pris on the side par moi-même pour le fun pour l'instant.
Ouais. Comment tu trouves ça d'être... parce que tu as travaillé pendant des années avant que ça prenne forme. Puis là, aujourd'hui, ça va super bien pour toi. Comment tu vis avec les gens qui te reconnaissent un peu partout maintenant?
Ben, les gens sont super fins ou polis. Tu sais, il n'y a pas personne... Souvent, moi, je suis comme... c'est drôle parce que c'est qui m'a dit ça? C'est-tu Patrick Groulx? Bref, il y a un humoriste qui m'avait dit... À un moment donné, tu pognes la coche de... Ils savent t'es qui? Mais ils savent pas, tu sais, comme ils te reconnaissent de quelque chose, mais ils savent pas de quoi. Ouais. Ça peut m'arriver du monde qui font comme toi, t'es c'est toi. Là, je fais peut-être, je sais pas. Puis moi, je me mets pas à énumérer mon CV artistique. Fait que je fais ah, ça se peut que vous me connaissiez, tu sais. Puis là, ils font. Puis tu sais, l'autre fois, c'est une madame, c'était au. J'étais allé voir mon ORL là, parce que j'avais plus de voix. Puis la madame à la clinique était comme mais on se connaît. Genre, ça se peut. Puis elle dit t'es-tu allé à l'école avec ma fille? Je fais. Je sais pas. Tu sais, avant que je fasse. Puis là, c'est juste son mari à côté fait. Il est humoriste. Puis là, je vais. Ah, si. Fait que là, dans la salle d'attente, là, le monde s'en même parlé. Tu sais, j'étais un peu. Là, il y avait comme 4-5 madames qui me jasaient. Mais ça me va. Tu sais, les gens. Ouais. Je pense que les gens sont fins. J'ai eu personne à te déplacer dans la vie avec ça. Tu sais, à l'épicerie, je peux faire mon épicerie sans me faire déranger. Là, c'est pas un problème.
Okay. Moi, c'est la curiosité malsaine. Je sais pas si vous faites ça. Là. Je parle pas à toi, mais je parle aux autres. Là. Mais tapez-vous des fois votre nom sur Google. Tu sais.
Ben, moi, j'ai en fait Google Alert.
Ouais.
Tu sais, fait que si mon nom sort pour quelque chose,
tu vas le savoir.
Un email qui fait Guillaume Pinault, votre nom a été nommé pour ça. Mais taper mon nom moi-même, la seule fois que je le fais, c'est le lendemain d'une première médiatique. C'est Guillaume Pinault, je clique sur Actualité, puis là, je vois les critiques qui sortent.
Parce que des fois, c'est weird, les gens, tu sais. Puis juste le fait des réseaux sociaux, ben, ça fait en sorte que les gens savent qui sont nos enfants, ils savent qui sont nos conjointes. Puis là, ben, tout d'un coup, ta conjointe te dit « Hey, tu connais-tu ça, Steve Tremblay? » Non, je le connais pas. Elle dit « OK, c'est parce que t'es ami avec, mais là, ils viennent me demander une demande d'amis aussi. » Tu sais, les gens ont l'impression que...
quand ils réussissent, ou tu sais, puis en plus, Facebook est fait de même. Là. Il va faire t'es ami avec lui, clac, il va t'envoyer. Fait que là, oui. Hey, moi, à un moment donné, j'avais trouvé ça malsain. Là, ça m'avait suggéré ma psy. Ben oui, les autres, ils voient bien que je suis dans son bureau de temps en temps. Fait que là, c'est rendu qu'il me suggère. Puis ça suggère d'autres patientes, ma psy, parce que là, tu fais comme non, on va pas se créer un beau cercle d'amis entre personnes qui va consulter une madame. Là. Fait que ouais, ça. C'est vrai que les gens sont à un clic. D'avoir accès à toi. Ça fait que des fois, en question sur Facebook ou Instagram, j'ai reçu des questions, je fais hey, c'est pas de vos maudites affaires. Là. Surtout, je parle quand je me suis séparé ma dernière rupture, qui était médiatique, le monde m'écrivait qui garde le chien? Comment ça fonctionne? C'est pas des crises d'affaires, ça. Pourquoi j'aurais donné cette information-là?
Oui. Comment vous avez séparé vos affaires?
Ben c'est ça, là, j'avais eu accès à beaucoup là, à cette heure. Là, c'est nous vivre notre deuil. Là,
mais les gens ont vraiment l'impression que parce que bon, vous étiez deux personnes connues, vous leur appartenez. Fait que vous leur devez des réponses. Là. Tu m'appartiens, Guillaume.
Puis je sais qu'il n'y a rien. Tu sais, j'en ai parlé à un moment donné parce que tu sais, Véro Cloutier, je me dis, elle doit en vivre en tabarouette. Là, fait que j'ai dit, hey Véro, pourquoi? Puis elle dit les gens font pas ça méchamment.
Ben non.
Des fois, c'est la curiosité. Des fois, ils pensent même qu'ils sont gentils, tu sais, en faisant comme un peu tu sais, comme, hey, t'avais l'air fatigué, mais bravo ton entrevue. Tu fais, Chris, pourquoi c'est fort? c'est ça. Je pense pas que les gens sont déplacés ou méchants.
Ouais.
Je pense que des fois, ils sont plus maladroits.
Puis, ça te gosse-tu, les sites à potins qui inventent des affaires à gauche puis à droite?
Ouais, les sites à potins, oui. Ça... Parce que, tu sais, des fois, je sais que quand je m'exprime.
Stresser ta main pour rien, tu sais.
Ouais, ben si je prends l'exemple de vraiment quand ils ont sorti que j'étais en couple avec Corinne Côté, ça a été quelque chose de hey, ma famille m'a appelé, mais j'ai aussi, tu sais, à ce moment-là, j'avais pas dit à personne publiquement que j'étais en couple, tu sais. Fait que c'est sûr que aussi ma belle famille, là, est comme, qu'est-ce que c'est, là, Guillaume, il est. Tu sais, fait qu'il y a eu une couple d'affaires qui s'est passée de même, mais sinon, ben non, je veux dire, ça fait partie de. Le monde lit ça, là, il doit y avoir du monde qui le lise pour qu'il continue à sortir des affaires. Fait que c'est juste des fois, je fais ce que... C'est les titres qui sont trompeurs des fois, c'est ça qui me fatigue. T'sais. Il est vraiment fait pour que tu ailles cliquer. Vous ne croirez jamais ce que Guillaume m'a dit. Puis là, finalement, j'ai dit que j'aimais pas les brocolis. Tu fais comme, ben le monde, il le croit. Là. C'est pas, c'est... Mais tout est correct.
T'aimes faire de la scène. Bon, tu fais des belles salles. Je t'allais regarder ton horaire tantôt sur ton site Internet. Tu fais de la radio une fois de temps en temps. Qu'est-ce que t'aimes faire dans tous ces médiums-là? Télé, radio versus la scène. Qu'est-ce qui te passionne comme individu?
J'adore tous les médiums. J'aime ça. Les faire, tu sais, la radio, c'est un cadeau du ciel. Là, honnêtement, le contrat des Fantastiques, c'est comme un 20-25 présences. Ça concorde tellement qu'un humoriste, à début de chaque mois, ils font « C'est quoi vos dates de libre? » Ils nous mettent des périodes là-dedans, on va faire de la radio. Puis, tu sais, les Fantastiques, c'est un podcast radio, là, dans le fond. Mm-hmm. On est trois Fantastiques qui racontent des patentes, puis on jase entre nous autres. Pour vrai, on le dit beaucoup, la gratitude, mais j'en reviens pas d'être avec les Fantastiques depuis comme 6 ans, puis d'être encore là, c'est vraiment le fun. Puis la télé, je sais qu'à un moment donné, moi, j'ai pogné un peu une espèce de... J'étais beaucoup chroniqueur, puis j'aimerais ça, tu sais, j'aimerais ça animer quelque chose, j'aimerais ça faire un show qui est plus que juste une chronique humoristique ou un roast. Fait que ça, on l'a bien dit, nous autres, là, quand le monde nous appelle, des fois, je fais comme, je ne retournerai pas faire une chronique, mais si vous êtes intéressé à comme un mandat plus gros, ça va me faire plaisir, je pense que je suis rendu là.
Ben c'est le fun quand tu réussis à dire « Hey, j'ai pas besoin de ce contrat-là. Par contre, si vous en avez un autre de ce style-là, je répète, ça veut dire que tu es rendu à une place dans ta vie où tu peux choisir maintenant. »
Exact. Oui, ils nous appellent des fois pour faire. Là, on auditionne pour telle affaire. Puis, tu sais, comme je pense à l'audition de l'animation de Survivor, j'étais content de le faire. Tu sais. Puis c'est une expérience pour moi aussi d'essayer ces steps-là. Je veux dire, stade. Mais anyway, je suis content de l'essayer. Mais... Je l'ai déjà dit plein de fois, la télé, la radio, les podcasts, ça reste que tout ça, c'est dans le but que le monde me voit puis qu'ils viennent me découvrir sur scène parce que c'est là que j'aime le plus que je fais puis que je pense que je suis le plus moi-même puis que je peux m'installer aussi. Tu sais, une chronique radio, une chronique télé, t'es là 6-7 minutes.
Ouais.
Et mon show, j'ai 1h30 pour m'installer. Fait que tu rentres vraiment dans mon... J'essaie de dire rentrer dans mon univers, mais c'est ça pareil.
C'est
ta place.
C'est ta place. Quand ils arrivent, tu les accueilles chez vous, puis tu leur parles de tes trucs. Mais si tu me demandais pour ce qui est des différents modèles, que ce soit la télé, la radio, la formule podcast, podcast filmé, moi, ce qu'on fait là actuellement, Guillaume, c'est ce que je trippe à mort. T'sais. Les gens sont dans leur voiture. On a encore du trafic là, un peu partout au Québec, dans les grosses villes. Montréal, Québec, sont dans leur voiture comme 45 minutes. Puis avoir des trucs formatés, puis aux 8 minutes, il y a des publicités.
Ouais.
Moi, ça me tue. Je comprends qu'on a besoin de mettre de la publicité, mais tu sais, j'écoutais à l'époque, j'écoutais beaucoup M. Arcan le matin.
Oui.
Puis M. Arcan, moi, je l'aimais. J'étais un fan de M. Arcan. Mais le 8 minutes où il pouvait parler avec un ministre, puis c'était un dossier super important, puis de dépasser là, 7 minutes 55, il fallait qu'il dise « Ah ben c'est tout, on se reparle la prochaine fois », ça me tuait à chaque fois. T'sais. Tandis que s'asseoir comme on fait là, ce soir, jaser, aller à gauche, aller à droite, on s'en sac un peu. L'important, c'est qu'on s'amuse, qu'on en sache un peu plus sur l'invité. Moi, c'est le modèle que j'aime le plus faire en communication dans les différents médias.
Oui, bien, quand en temps de pandémie, j'avais parti mon podcast, puis avec Pinot. Puis c'était aussi une portion où est-ce que j'étais plus à l'animation, puis pas en dessous du spotlight, puis parler avec quelqu'un, puis donner le temps de répondre, puis surtout faire, justement, comme l'univers podcast, ce qui est le fun aussi avec ça, c'est que tu peux parler de choses qui, justement, t'as pas parlé à la télé,
exact.
Que t'as pas eu le temps de parler à la télé. Fait que, tu sais, là, tu peux faire le pédigré au grand complet, puis avec Pivot et Pinot, j'aimais ça, c'était des questions de Bernard Pivot, des questions que moi, j'avais créées. C'était tout le temps les mêmes à tout le monde, mais de voir les différentes réponses, je trouvais ça tellement intéressant, puis... J'en ai un avec Boucard Diouf qui est comme 1h30, mais j'en ai un autre avec Gabriel Fontaine, tu sais, qui est comme 2h40. Tu sais, ça donnait le temps aux gens de répondre. Tu peux l'écouter en plusieurs fois, si tu veux. Je trouvais ça vraiment intéressant. Ouais, c'est un médium que j'aime beaucoup, le podcast.
Ah, c'est des beaux formats. Là, tu es à ton chalet présentement, donc merci beaucoup de m'accorder une entrevue ce soir. C'est très, très, très apprécié. Tantôt, tu m'as montré ton cahier de notes. T'es-tu un gars qui note à peu près toutes les histoires à bracadabrande qui peut y arriver ou les idées qui te passent par la tête?
C'est beaucoup dans mes notes de téléphone. Dès que ça se fait, je vais dans notes de téléphone, je me mets une petite affaire. Puis à un moment donné, quand j'arrive pour écrire soit un autre show ou un autre numéro, là, je sors toutes mes notes, j'y rentre toutes dans Word. Puis là, de là, j'essaie de me peaufiner quelque chose. Mais c'est parce que je me suis rendu compte, j'écris plus ce que je pense directement. J'écris mieux, pas mieux, mais j'écris plus vite à main qu'à l'ordi. Fait que quand, des fois, j'ai une idée, puis là, à l'ordi, je l'écris, puis là, ça finit, je fais, mais c'est pas ça que je voulais dire. Tandis que des fois, je me l'écris dans mon cahier, puis au chalet, je peux m'installer n'importe où, j'écris ça, puis à un moment donné, il va finir que ça, je vais le transcrire dans l'ordi, puis fait que ça m'aide à... Okay. Quand je le transcris dans l'ordi, je peux prendre ce qui est écrit là, puis rajouter un petit punch par-ci, par-là. Fait que j'essaie de le faire à l'ancienne, à la main, puis après ça, de le rentrer à l'ordi.
Mais là, je comprends pas. C'est-tu parce que tu tapes avec tes index ou quoi? Je comprends.
Je tape avec mes index. Je tape quand même assez vite. Mais c'est juste que je trouve que des fois, ce que tu dis là,
ouais,
part pas pareil comme quand des fois, j'aime mieux me faire un audio de ce que je pense.
OK.
Après ça, aller le retaper. Parce que je te le dis, il y a quelque chose qui se passe entre ma tête et mes bras. C'est-tu que... Tu fais, c'est pas ça, c'était pas ça l'essence de la patente que je voulais écrire.
La connexion, des fois, se fait mal entre le cerveau et les bras.
Le Wi-Fi bug.
Est-ce que c'est-tu compliqué pour toi monter un spectacle ou as-tu une équipe autour de toi que tu fais le spectacle devant eux puis ils te jugent très sévèrement? Là? As-tu des gens de confiance que tu détestes pendant 30 minutes après?
Ah, ouais, ben j'ai des gens de confiance que je déteste pendant le processus, mais on s'aime d'amour en bout de ligne, on le sait. Mais des fois, on hausse le ton. parce que je travaille avec Mickaël Gouin et Pascal Mailloux, qui sont mon metteur en scène et mon script éditeur.
Ouais.
Des fois, c'est pas rare que les deux gars sont d'accord sur quelque chose. Puis là, c'est moi qui fête mon point. Mais en bout de ligne, moi, je trouve ça confrontant parce que l'ai écrit, mais c'est comme si c'était moi que tu critiquais directement. Mais là, tu critiques le texte. C'est juste que vu que je suis trop proche du texte, puis là, en bout de ligne, ça finit qu'on l'enlève. Puis cette année, on a gagné... Olivier pour texte de l'année. Puis je suis comme, mes asties en plus, m'ont fait enlever des affaires, puis vous aviez raison. Fait que, tu sais, j'abdique, puis je finis par accepter 2 ans plus tard. Mais
oui, vrai, c'est confrontant parce que toi, c'est tes trucs, c'est toi qui rend le produit que vous avez créé. Puis là, t'es sûr et certain que ça, c'est bon, c'est le meilleur texte de la Terre, tu leur présentes, puis là, ils te regardent, pas tant.
Puis des fois, c'est même pas que je fais c'est bon, c'est que je fais. C'est utile pour joindre ça puis ça ensemble. Les gars, ils sont comme non, couplés. Puis des fois, il faut vraiment le faire physiquement. Là, on a l'ordi. Les gars vont aller couper un paragraphe. Ils vont mettre une virgule. Ils vont faire ça se suit. C'est juste toi dans ta tête parce que tu l'as vécu dans cet ordre-là que tu penses que c'est important de le dire dans cet ordre-là. Fait que ça, il y en a eu là, beaucoup là, du script edit puis de changement de virgule puis retirer des bouts de texte. Mais comment je procède, c'est jamais comme j'écris un texte et je le présente devant 2 personnes.
Là. Non.
Je me gonnerais. Honnêtement, pas, je ne peux pas faire ça. Non, ce que je fais, c'est avec Groupe Paneuf, ils ont accepté. J'ai un fan club là, qui s'appelle le Troupeau à Pinot.
Ouais.
Les gens là-dessus, je leur envoie un courriel. Je dis, mettons, le 17 juin, je vais être au Terminal Comedy Club. Il y a 80 places. C'est gratuit, mais j'essaye n'importe quoi. Là. Je vais avoir, puis on appelle ça le Whiteboard Challenge. C'est un tableau blanc avec des thèmes. Puis je demande au public quel numéro tu vas entendre. Puis ils font numéro 7. Je fais numéro 7. OK, je vais te parler de solitude. Puis là, je pars, mais tu sais, des fois, je peux parler 7 minutes, puis rien de drôle. Là. Mais de ça, on le garde, puis on l'enregistre. Puis je l'ai fait, mettons, pour Vulnérable. On a fait 5 Whiteboard Challenge. Puis dans les 5, je pense qu'ils ont tous duré 1h30, 1h50. Puis on les a shortés à 1h30, un spectacle. Fait que tu sais, on a fait ça, c'était drôle, ça. Puis c'est là que Pascal Mailloux, mon script éditeur, est arrivé. Puis lui, il a fait quelque chose que j'ai jamais vu de ma vie. Il m'a dit, j'ai écouté tous tes numéros. Ça, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut parler de Kijiji. C'est pas spécial. Ça, il y a juste toi qui as vécu ça. Ça, c'est du Pinot. Puis en bout de ligne, on a gardé juste ce que lui avait écrit à côté. C'est du Pinot. Puis de là est sorti mon deuxième show.
OK, mais les gens ne s'imaginent pas tout le travail que vous faites avant de présenter le spectacle.
Bien, ils ne s'imaginent pas le travail de l'humoriste qui est principal, mais même les premières parties.
Ouais.
Tu sais, des fois, ils vont voir une première partie, soit je l'ai vécu en première partie de Phil Roy ou de Pat Grou, mais même ma première partie à moi, le monde finit puis ils font comme, « Ah, c'était bon, tu commences, c'est-tu ta première fois? » Mais... Pour qu'ils disent ça, là, tu sais, puis qu'ils aient trouvé ça drôle, puis faire, mais c'est tellement travaillé, puis son 15 minutes, il est peaufiné, puis testé dans les bars, puis réessayé, puis, tu sais, fait je le sais c'est quoi. Puis des fois, c'est ingrat, justement, d'être première partie parce que le monde font comme « Ah, c'est un petit nouveau, il a été chanceux d'être drôle à soir. » Non, non, c'est pensé, c'est tout préparé.
Ouais.
Et après ça, tu prends cette fonction de 15 minutes-là puis tu le mets sur une heure et demie. C'est beaucoup, beaucoup de travail, mais ouais.
Tu sais, puis moi, je suis un consommateur d'humour, puis j'apprécie beaucoup quand il y a des premières parties d'humour. Tu sais, Mariana Mazza, elle nous avait présenté un chanteur, je trouvais ça très cool, mais tu sais, moi, je vais là parce que je veux voir un show d'humour. Fait que je m'attendais à ce que le gars qui soit là, ça, ou la fille, ce soit une humoriste que je pourrais peut-être aller voir dans 5 ans, dans 10 ans, pour me faire une tête, tu sais. Puis là, c'était un chanteur qui était super bon, soit dit en passant, là, mais j'étais un peu déçu. Tu sais, j'aime bien les premières parties, ça me met un peu dans le bain. Puis en plus, quand ils sont bons, ben là, l'autre arrive, la job est déjà faite, là, tu sais.
Ben, c'est ce que j'aime, ben, pas que j'aime le plus, mais j'aime beaucoup ça quand le monde vient de me voir à la fin, ils font « Hey, nous, on t'a vu en première partie de Pat Grou » ou « Hey, c'était avec Phil Roy ». Quand ils me disent Phil Roy, je fais « Ça fait longtemps, puis vous avez aimé ça, puis vous venez me voir là, c'est bon, parce que, tu sais, Phil, c'était de 2015 à 2018, fait que, tu sais, ça fait un bout, là, puis ils ont quand même décidé de venir me voir, fait que ça, j'aime ça quand les gens prennent la chance de venir découvrir ce qu'ils ont aimé d'une première partie.
Je rappelle aux auditeurs qu'on a le plaisir de passer la soirée en compagnie de Guillaume Pinault. Pour en savoir plus sur Guillaume, c'est assez simple, guillaumepinault.com. On va faire une courte pause et on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Le Rock and Chill avec Audrey Pinchot. C'est le même feeling que d'assister au MTV Unplugged de ton band préféré, mais dans ton salon ou ton lit ou à pratique de tes kids. À vous joue des covers, des versions acoustiques. Un paquet d'affaires qui s'écoutent bien tranquille les matins de fin de semaine. Le Rock and Chill, samedi et dimanche, 7h.
Hey, salut, c'est Audrey. Si t'écoutes Boulevard, tu le sais que pour moi, ben, c'est important d'adresser les choses pour pas laisser la place aux tabous ou non-dits. Je suis très fière que Boulevard s'associe au Centre de prévention du suicide de Québec pour parler des services offerts gratuitement aux personnes endeuillées par le suicide. Il y a des interventions individuelles, des groupes de soutien pour tous les âges, littéralement. Donc, si t'as besoin d'aide, regarde ça. 1-866 appelle, ça fait du bien de parler. Boulevard 101 et le Centre de prévention du suicide de Québec vous encouragent à briser le silence.
Si vous êtes concerné par la perte de cheveux, planifiez une consultation sans frais chez Viva et obtenez une carte cadeau de 125 $. C'est du jamais vu. Pour en profiter, cliniqueviva.com.
Le 14 juin prochain, le parcours de la boucle Vidéotron du Grand Défi Pierre Lavoie traversera plusieurs secteurs à Lévis. Des entraves importantes à la circulation sont à prévoir selon les secteurs. Planifiez vos déplacements en visitant ville.lévis.qc.ca/circulation.
Pièces d'auto économiques pour des pièces neuves garanties et les meilleurs prix. En juin, obtenez 15% de rabais sur les produits de filtration Wix de première qualité et 25% de rabais sur les essuie-glaces Rain-X. Visitez notre nouveau méga magasin de Beauport sur la rue Cambronne, pièceéconomique.com.
Saviez-vous que les biens qu'on a chez nous valent souvent plus cher qu'on pense? Chez ProMutuelle Assurance, on est là pour vous conseiller les protections adaptées à votre réalité. Que vous soyez en maison, chalet, condo ou appartement. Une belle façon de vous assurer la tranquillité d'esprit. Profitez de notre assurance pour locataires et protégez vos biens et votre responsabilité civile à partir de seulement $15.95 par mois. Demandez-nous une soumission, vous verrez pourquoi on nous recommande autant. Les conditions s'appliquent. ProMutuelle Assurance et la 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 la.
Vous avez des problèmes de fondation, d'humidité, de fissures ou d'odeur dans votre sous-sol? Vous avez un problème avec votre vide sanitaire ou votre pompe de puisard?
Pour tous les problèmes de sous-sol, Système Sous-sol Québec est la solution avec une garantie de 25 ans. Pour tout ce qui est sous-sol, sous-sol.ca.
Chez Miville Climatisation, on est concessionnaire autorisé Mitsubishi Electric numéro 1 au Québec. On est même lauréat du prix Diamant témoignant de notre excellence. Grâce à nos thermopompes performantes chez Miville Climatisation, ça fait 57 ans qu'on garantit votre confort. Visitez miville.ca.
Exclusivement chez Couche-Tard. Pour un temps limité, les caisses de 18 bouteilles de Corona sont au prix minimum, soit $23.04. Oui, au prix minimum et c'est juste chez Couche-Tard. Une façon de bien partir l'été. Consommer de façon responsable, 18 ans et plus.
Prêt à relever le défi? Immeuble Roussin, une entreprise immobilière située à Québec, recherche un directeur construction et exploitation. Rejoins une équipe dynamique et contribue à des projets ambitieux et stimulants. Tu seras responsable de la planification, de la coordination et de la supervision des activités liées à la construction et à l'exploitation de nos immeubles. Tu seras au cœur de l'action, entouré d'une équipe motivée, avec la liberté de mettre en valeur ton expertise et ton expérience. Postule dès maintenant sur le immeubleroussin.com.
C'est pas pour rien qu'ABBA, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez ABBA, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. ABBAExtermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. ABBA, une solution définitive.
Pendant que vous fêtez les 2 ans de Charlotte avec toute votre famille, l'AMF veille. Pendant que vous pédalez comme un forcené sur votre vélo stationnaire pour retrouver votre forme d'antan, l'AMF veille. Pendant que vous regardez en rafale votre série préférée, l'AMF veille sur vos dépôts en les protégeant au cas où une institution financière provinciale ferait faillite. Continuez de profiter de la vie. L'AMF veille. Pour en savoir plus, consultez l'autorite.qc.ca. Un message de l'Autorité des marchés financiers.
Salut, c'est Joanie Fortin. Le premier épisode du balado Histoire d'entrepreneur est déjà disponible sur toutes les plateformes. Et lundi, le 2 juin, j'aurai le bonheur de m'entretenir avec Marc-Antoine Reed. Un mot pour décrire cet épisode-là, je pense qu'on va parler d'un bâtisseur. Un homme qui veut justement bâtir avec sa clientèle en planification financière. Puis on va s'éduquer aussi là-dessus. Super intéressant. Alors, je vous donne rendez-vous lundi, le 2 juin.
Histoire d'entrepreneur, présenté par l'équipe Marc-Antoine Reed, DGG. Gestion privée du patrimoine qui s'occupe de la planification financière et fiscale de votre entreprise. Équipe marcantoinereed.com.
Chez Trudel, on aime ça faire d'une pierre deux coups. Le samedi 7 juin, en plus de souligner la fête des voisins, nous vous convions à la première pelletée de terre du projet de requalification des Galeries Charlebourg. Des jeux gonflables et des maquillages pour toute la famille, des hot dogs, des breuvages, un DJ sur place et surtout la chance de faire la pelletée vous-même. Et tout est gratuit. On vous attend en grand nombre afin de souligner ensemble ce moment important pour notre communauté. Samedi 7 juin aux Galeries Charlebourg à compter de 10 heures. Un autre événement Trudel. Détails sur trudel.ca.
Boulevard 102.1. De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien, vous allez le savoir aussi.
C'est simple.
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
L'humoriste et homme multitalent est avec nous ce soir, Guillaume Pinault. Merci beaucoup d'être là, Guillaume. Bon, t'es à ton chalet aujourd'hui, tu sembles relax. Je m'excuse de t'obliger à travailler aujourd'hui.
Non, c'est pas... Je sens même pas ça comme un travail, j'aime ça, c'est de la jasette, c'est le fun.
T'aimes ça. Oui. Tu parlais tantôt des premières parties, t'as fait la première partie de certains humoristes qui aujourd'hui sont devenus des chums pour toi. Y a-tu des gens qui que tu pourrais nous nommer qui t'ont vraiment aidé dans ce métier-là? Qui t'ont vu comme étant un ennemi à abattre parce que si tu manges une pièce, Guillaume, tu vas manger sa pièce à lui puis il veut rien savoir, tu sais.
Non, mais tu sais, mais premièrement, Phil Roy, ça a été une énorme passe à sa palette de voir faire ses premières parties. Puis Phil, c'était un peu, tu sais, comme il y avait un nouveau public, fait que ça m'a permis d'avoir un nouveau public aussi. Puis de là, tu sais, il y a un pourcentage de ce public-là qui, aujourd'hui, vient me voir moi. Fait que Phil, ça a été une grosse passe à sa palette, mais Pat Grou, il a été vraiment très, très important dans ma carrière parce que, tu sais, il m'a fait faire ses premières parties, ce qui me faisait rencontrer un autre public de monde qui l'aimait depuis ses débuts à lui quand il avait 20 ans. Il est rendu à 40, il était à 46 à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est des, je vais pas dire des vieux de la vieille, mais des hardcore fans qui font on découvre un nouveau qui a le saut d'approbation Pat Grou, on va l'aimer aussi. Fait que ça a été très gros pour moi. Puis j'ai fait de la radio avec Pat pendant un été complet. Puis ensuite de ça, quand Pat a eu l'idée de l'émission Coup de cochon, il a dit « Je veux absolument Guillaume Pinault avec Mathieu Pepper. » Fait que puis Michel Desrochers, elle, est arrivée. C'est nous qui l'avait suggéré parce qu'on l'aimait comme humoriste. Puis on voulait aussi avoir une fille dans notre trio. Fait que, tu sais, Coup de cochon, ça a été une grosse passe à la palette pour moi au niveau télévisuel puis d'avoir accès à Belle puis tout ça. Fait que Pat, vraiment, ça a été une grosse aide pour moi. Puis après ça, bien, sans dire que ça a été une énorme aide, mais tu sais, juste le fait que Louis-José ait demandé à quand j'ai des dispos si je veux remplacer sur sa tournée quand Yves pouvait pas, bien, tu sais, de faire les premières parties de Louis-José aussi, c'est une énorme passe, ça, parce que c'est l'humoriste le plus populaire au Québec. Fait qu'encore une fois, s'ils font, il est allé demander à ce gars-là d'ouvrir pour son show, Fait que ça, c'est quelque chose qui était bien, bien, bien smart. Sinon, sans que ce soit des humoristes, mais tu sais, Véronique Cloutier,
ouais.
Pour moi, c'est aussi quelqu'un qui m'a ouvert bien des portes. Là. Ouais. Fait que, puis Phil Roy aussi, il m'a fait faire Vrac TV. Voyons, comment ça s'appelait? Alt à Vrac TV. Fait que tu sais, c'est quand même, ça a été une entrée pour moi aussi à la télévision. Fait que, ouais.
Ah, c'est très cool, puis c'est important d'être reconnaissant envers ces gens-là. Y a-t-il une façon de choisir ta première partie? Est-ce que tu choisis un gars ou une fille qui a à peu près le même style d'humour que toi ou ben, tu préfères prendre quelqu'un qui est complètement là, à l'opposé de toi des fois?
Il y a plusieurs visions pour ça. Moi, je veux quelqu'un qui va bien réchauffer la salle.
Ouais.
Parce que je veux que lui ait du fun. Tu sais, parce que j'ai déjà entendu dire qu'il y a des humoristes qui ne veulent pas que la première partie rentre trop fort parce que ça eux autres les insécurise. Moi, c'est au contraire. Je veux qu'il rentre tempête pour que quand je rentre, s'il y a une vague, m'a surfé dessus direct. Tu sais. Mais c'est aussi important humainement. Tu sais, je veux aimer l'humoriste, mais l'humain est important parce que quand tu vas faire Montréal, Sept-Îles en char, c'est un 7 heures ça, qui peut être très lourd là, rapidement. Fait que, tu sais, c'est comme ça moi, que Jay Fournier a été sélectionné. Puis je le dis, j'en ai parlé parce que tu sais, Jay a commencé à rouler son propre show à lui. Il roule son heure et tout ça. Puis je l'ai rentré dans la tournée du premier show en 2019 en rodage. Je ne sais pas la journée que Jay, quand il va partir, comment je vais réussir à le remplacer. Ça va être dur de trouver quelqu'un. T'sais, puis en plus, ben moi, je vieillis. T'sais, fait que je le vois avec Louis-José qui continue à prendre des premières parties comme plus jeune. T'sais, fait, à un moment donné, il y aura un gap aussi qui s'installe.
Ouais.
Après ça, tu parles de quoi quand tu as 44 ans et que tu ramasses quelqu'un qui a 21 ans? C'est pas la même discussion. Là, fait que, j'ai hâte de voir, je ne suis pas rendu là, mais un jour ça arrivera. Mais une première partie, il faut que ça soit drôle, puis que ça soit humainement, je vais le dire adéquat, mais il faut que ça soit le fun humainement avec lui parce que c'est ça.
Puis y a-t-il une compétition qui est saine ou une compétition malsaine dans l'humour?
Il y a les deux.
Ah ouais.
Il y a les deux. Après ça, c'est toi qui décides dans quoi tu navigues. Je pense que la compétition malsaine, c'est toi qui se l'installe aussi. Là.
Ouais.
Si tu te mets à comparer à tout le monde, puis. T'sais, moi, je le dis même ouvertement, là, j'en ai déjà parlé, moi, ça a été une grosse angoisse quand mon premier show est parti. Je regardais tous les soirs mes plans de salle, puis là, j'étais comme, ah, là, j'allais voir les plans de salle des autres, puis, ah, si, eux autres, ils vendent, puis lui, OK, ben là, je vends plus. Hey, ça, là, tu sautes un gasket, là, fais pas ça. Fait que la saine compétition, je pense qu'elle est là, tu sais, parce que, veux pas, il y a des postes, mettons, ils veulent quelque chose pour une audition, puis ils prennent 5 humoristes, bien, je pense que c'est une saine compétition, puis ils vont prendre celui qui aime le plus ou celui qui a bien scoré ou celui qui a plus de monde sur ses médias sociaux. Après ça, tu sais, c'est pas toi qui as le contrôle là-dessus. Mais ouais, je pense que c'est correct d'avoir une saine compétition où je pense que c'est important. Puis c'est ce que j'ai compris dernièrement, ça. C'est que plus tes collègues sont bons, plus les gens vont venir voir ton show. C'est ça l'affaire. C'est que si tu vas voir un show d'humour que tu trouves plate, en sortant du show, tu vas être comme « Hey, l'humour », puis tu ne prendras pas le temps à regarder peut-être dans le lobby les posters des autres. Moi, combien de monde sont venus me voir en me disant « Hey, je suis sorti du show de Simon Gouache, j'ai vu ton poster, j'ai quand même fait « Je vais aller voir son show ». Fait que tu sais, moi, j'ai déjà dit à Simon Gouache « Hey, merci mon gars, hein, parce que vu que ton show, il est bon, le monde vient de voir le mien. Je pense qu'il faut comprendre qu'on est plus une équipe des fois qu'on peut peut-être le penser.
Ben oui, ben oui. Crowdwork, tu travailles ça un peu pendant tes shows? C'est quelque chose de compliqué ou de tout à fait naturel pour toi?
Le Bordel Comedy Club à Montréal m'a appris ça un petit peu parce que quand ils m'ont donné comme les premiers essais d'animation, l'animateur au bordel fait du crowdwork. Il ne fait pas de numéro. Fait qu'il arrive, il parle au public, il réchauffe, il installe les règlements, puis de là, il présente les humoristes. Puis de temps en temps, pour meubler, là, on peut peut-être faire un numéro comme de 2-3 minutes. Fait que ça a été les premiers exercices de crowdwork. Puis après ça, je l'ai utilisé beaucoup, moi, en animation dans les bars quand j'ai commencé mes propres soirées à moi. Fait que j'en ai un petit peu dans mon show. Où au moins, je sais, s'il se passe de quoi, je peux naviguer avec la foule. Mais mon show, j'aime ça quand il est tout placé. Puis là, quand je le connais tellement, ça ne me dérange pas de sortir du cadre du show pour pouvoir jaser au monde, c'est correct. Mais il faut que je sache pour tourner après. Je ne ferais pas un show en faisant « ça va être du crowd work, puis là-dedans, il va y avoir des jokes. »
Ah non, ça.
Je peux pas. Moi, c'est trop angoissant pour moi. Mais c'est les whiteboard challenge, il y a du crowd work, là, parce que maintenant, si tout est nouveau, ça, c'est que le crowd work fait partie de mon humour, mais c'est pas, C'est pas. Si mémoire, mon choix, t'en dois pas à ce que ce soit ça. Là, c'est pas ça. Là.
T'as-tu déjà eu un blanc de mémoire?
Oui. oui. Puis il m'a angoissé longtemps, ce blanc-là. Mais c'était à Saint-Hyacinthe. J'étais en rodage de mon premier spectacle. Puis on était à la fin du rodage. Puis ce soir-là, il y avait mon producteur qui était là, mon metteur en scène qui était là. J'avais invité mes amis, mes chums de gars, parce que je viens de Saint-Hyacinthe. Fait que tout le monde était là, puis je sais qu'il était au balcon en haut. J'ai commencé, puis hey, mon show commence.